Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la synthèse des yogas de Sri Aurobindo, le yoga des œufs traduit de l'anglais par mère. Le chapitre, c'est le chapitre 10, les trois modes de la nature. Pour peu que le sadhak se tienne une seule fois en arrière de l'action de Pakriti en lui ou sur lui, et que sans intervenir, ni modifier, ni réprimer, ni choisir, ni décider, il se laisse dérouler, il laisse se dérouler le jeu et observe, analyse le processus. Il découvre bientôt que les modes de Pakriti sont indépendants et fonctionnent comme une machine mise en marche, par sa propre structure et par sa propre force de propulsion. La force et la propulsion viennent de Pakriti, non de la créature. Alors il comprend combien son impression était fausse quand il croyait que son mental était l'auteur de ses œuvres. Son mental n'est qu'une petite partie de lui-même et une création de la nature, une machine de la nature. C'est la nature qui agit tout le temps, suivant ses propres modes, faisant mouvoir de ci, de là les trois qualités générales comme une fillette jouerait avec ses marionnettes. Tout du long, son ego avait été un outil et un jouet. Son caractère et son intelligence, ses qualités morales et sa puissance mentale, ses créations, ses œuvres et ses exploits, sa colère et sa patience, sa cruauté et sa miséricorde, son amour et sa haine, son péché et sa vertu, sa lumière et son obscurité, la passion de sa joie et l'angoisse de son chagrin, étaient tous le jeu de la nature auquel, attirée, conquise et soumise, prêtait son assentiment passif. Et cependant, le déterminisme de la nature ou de la force n'est pas tout. L'âme a son mot à dire dans cette affaire. Mais l'âme cachée, le purusha, non le mental ou l'ego, puisque ces derniers ne sont pas des entités indépendantes, mais font partie de la nature. Car l'autorisation de l'âme est nécessaire au jeu, et par une volonté intérieure silencieuse, en tant que seigneur qui donne l'autorisation, elle peut déterminer le principe du jeu et intervenir dans ces combinaisons, bien que l'exécution dans la pensée, la volonté, l'acte et l'impulsion restent encore nécessairement la part et le privilège de la nature. Le purusha peut dicter une harmonie que la nature exécute, non qu'il intervienne dans les fonctions de la nature, mais il pose sur elle un regard conscient qu'elle convertit immédiatement, ou après bien des difficultés, en une idée traductrice, une impulsion dynamique, une forme significative. échapper à l'action des deux gounins inférieurs est très évidemment indispensable si nous voulons transmuer notre nature actuelle et en faire un pouvoir et une forme de la conscience divine, un instrument de ses forces. Le tamas obscurcit. Il empêche la lumière de la connaissance divine de pénétrer dans les coins sombres et stupides de notre nature. Il sème l'incapacité, enlève le pouvoir de répondre à l'impulsion divine, paralyse l'énergie de changer la volonté de progrès qui nous rendrait malléables à une Shakti plus grande. Le Rajas pervertit la connaissance, fait de notre raison la complice du mensonge et l'instigatrice de tous les mouvements faux. Il trouble et corrompt notre force vitale et ses impulsions, bouleverse l'équilibre et la santé du corps. Rajas s'empare de toutes les idées nobles et de tous les mouvements inspirés pour en faire un usage faux et égoïste. Même la vérité divine et les influences divines, quand elles descendent sur le plan terrestre, ne peuvent échapper à cette usurpation et à ce mauvais usage. Tant que Tamas n'est pas illuminé et Rajas converti, aucun changement divin, aucune vie divine n'est possible. Avoir recours exclusivement à Sattva semblerait donc la seule issue, mais la difficulté est qu'une des qualités ne peut l'emporter à elle seule sur ses deux autres compagnes ou rivales. Par exemple, si nous considérons la qualité du désir et de la passion comme la cause du désordre, de la souffrance, du péché et de la douleur, et qu'à grand-peine nous travaillons à la réprimer, à la subjuguer, Rajas s'endort, mais Tamas se lève. Car, si le principe d'activité est engourdi, l'inertie prend sa place. Une paix, un bonheur, une connaissance, un amour tranquille, un sentiment juste peut être le fruit du principe de lumière. Mais si Rajas fait défaut, ou s'il est complètement supprimé, la tranquillité de l'âme tend à devenir une tranquillité de l'inaction et non la base solide du changement dynamique. Notre nature pense correctement, agit correctement. Elle est bonne, douce, égale, mais inefficace. Ses parties dynamiques tendent à devenir sattvo-tamasique, neutre, incolore, vide de pouvoir et de force créatrice. L'obscurité mentale et morale sont peut-être absentes, mais le sont aussi les ressorts intenses de l'action. Et nous tombons dans une limitation paralysante et une sorte d'incapacité. Car Tamas est un principe double. Il s'oppose à Raja par l'inertie et à Sattva par l'étroitesse, l'obscurité, l'ignorance, et si l'un ou l'autre est abattu, il se précipite pour occuper la place. Si, par contre, Nous faisons appel à Rajas pour corriger cette erreur, que nous lui ordonnions de s'allier à Sattva et que par leur intervention combinée, nous tentions de nous débarrasser du principe obscur. Nous nous apercevons alors que nous avons haussé notre action, sans aucun doute, mais que de nouveau, nous sommes soumis à l'impatience, la passion, les désillusions, la souffrance et la colère rajasique. Ces mouvements, peut-être, ont un dessein plus élevé qu'autrefois, un esprit et un effet plus haut. Mais ce n'est pas la paix, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le pouvoir, la maîtrise de soi que nous rêvons d'atteindre. Partout où se réfugie le désir et l'ego, se réfugie aussi la passion et le trouble, leur inséparable compagnon de vie. Si nous cherchons un compromis entre les trois modes, Sattva en tête et les deux autres se subordonnant, nous n'avons encore fait que tempérer le jeu de la nature et son action sans plus. Un nouvel équilibre a été atteint, mais la liberté et la maîtrise spirituelle ne sont pas en vue, ou elles ne sont pas encore qu'une lointaine perspective. Il faut donc qu'un mouvement radicalement différent nous retire des gunas et nous soulève au-dessus d'eux. L'erreur d'accepter l'action des modes de la nature doit cesser. Car tant que nous l'acceptons, l'âme reste emmêlée à leurs opérations et à leur soumission à leurs lois. Sattva doit être transcendé, autant que Rajas et Tamas. La chaîne d'or doit être brisée, autant que les entraves de plomb ou les ornements d'esclaves faits d'alliages mélangés. À cette fin, la Gita prescrit une nouvelle méthode de discipline de soi. C'est de se tenir en arrière de l'action des trois modes au-dedans de soi, et d'observer ce flux irrégulier tel le témoin si au-dessus de la houle des forces de la nature. Le témoin surveille, mais reste impartiable, impartial et indifférent. Il est en dehors du plan des forces, et au-dessus d'elle, dans sa position native. Tandis que leur vague se soulève et retombe, le témoin regarde, observe, mais n'accepte pas et, pour le moment du moins, n'intervient pas dans leur cours. Il faut d'abord parvenir à la liberté du témoin impersonnel. Après peut venir la maîtrise du maître ou Ishvara. Le premier avantage de ce processus de détachement est que l'on commence à comprendre sa propre nature et toute la nature. Le témoin détaché est capable de voir entièrement le jeu des modes de l'ignorance sans le moindre aveuglément égoïste, et de le suivre dans toutes ses ramifications, ses cachettes et ses subtilités. Car c'est un jeu plein de camouflage et de dissimulation, de pièges et de traîtrise et de ruses. instruit par une longue expérience, conscient que tout acte et toute circonstance sont l'effet de leur interaction, averti de leur procédé, il ne peut plus succomber à leur assaut, ni se laisser prendre à leur filet, ni tromper par leur déguisement. Et en même temps, il s'aperçoit que l'ego n'est rien de mieux qu'un stratège, le nœud qui soutient leur action réciproque. Et percevant cela, il est délivré de l'illusion de la nature inférieure, égoïste. Il échappe à l'égoïsme sadvique de l'altruiste, du saint et du penseur. Il secoue l'emprise sur ses impulsions vitales de l'égoïsme rajasique de celui qui ne pense qu'à soi. Il cesse d'être le laborieux pourvoyeur de l'intérêt personnel, le prisonnier choyé de la passion, le forçat du désir. Par la lumière de la connaissance, il brise l'égoïsme tamasique de l'homme ignorant ou passif, borné, sans intelligence, attaché à la ronde habituel de la vie humaine, convaincu et conscient du vice essentiel du sens de l'ego dans notre action personnelle, il ne cherche plus dans l'ego rajasique ni sadvique un moyen de se corriger ou de se libérer, mais regarde au-dessus et au-delà des instruments et des activités de la nature et appelle seulement le maître des œuvres et sa suprême Shakti, la Prakriti suprême. C'est là seulement que tout l'être est pur et libre et que le règne de la divine vérité est possible. Dans cette marche, le premier pas est d'acquérir une certaine supériorité détachée des trois modes de la nature. L'âme reste intérieurement séparée et libre de la Prakriti inférieure, non emmêlée à ses replis indifférences et heureuse au-dessus d'elle. La nature continue de tourner dans le triple cercle de ses anciennes habitudes. Le désir, le chagrin et la joie viennent à l'assaut du cœur. Les instruments tombent dans l'inaction, l'obscurité, la lassitude. Puis de nouveau, la lumière et la paix reviennent dans le cœur, dans le mental et dans le corps. Mais l'âme reste inchangée, non touchée par ces changements. Observant sans émotion le chagrin et les désirs des parties inférieures de l'être, souriant à leur joie et à leur tension, regardant sans accablement les chutes et les obscurités de la pensée, les dérèglements ou les faiblesses du cœur et des nerfs, examinant sans se laisser aller imposer ou sans attachement les illuminations du mental ou son soulagement, son sentiment d'aise et de pouvoir. Quand reviennent la lumière et le bonheur, l'âme ne se jette sur aucune de ces choses, mais attend inébranlablement les indications de la volonté supérieure et les intuitions d'une connaissance plus grande et plus lumineuse. Gardant toujours cette attitude, elle finit par être libre, même dans ses parties dynamiques, délivrée du conflit des trois modes et de leurs valeurs inadéquates, leurs limites étouffantes, car dès lors, et progressivement, cette Prakriti inférieure sent la contrainte d'une Shakti plus haute. Les vieilles habitudes auxquelles elle s'accrochait ne reçoivent plus de nouveaux assentiments et commencent peu à peu à perdre leur fréquence et de leur force de récurrence. Elle comprend enfin qu'elle est appelée à une action plus haute, à un état meilleur, et même si elle y met de la lenteur et des résistances, une mauvaise volonté plus ou moins prolongée ou une ignorance trébuchante, elle se soumet et prend le tournant et se prépare à changer. La liberté statique de l'âme, qui désormais n'est plus seulement le témoin et le connaisseur, s'achève par une transformation dynamique de la nature. Le mélange constant des trois modes, leur opération inégale et réciproque dans nos trois instruments mental, vital, vie et corps, cesse son action habituelle et ses mouvements confus, troubles, intempestifs. Une autre action devient possible et commence, grandit, s'épanouit, un fonctionnement plus juste, vraiment, plus lumineux, plus naturel, qui correspond mieux au jeu divin profond du Purusha et de la Prakriti. Encore, qu'il soit supranaturel et supranormal pour notre nature actuelle imparfaite. Le corps, qui jusqu'alors conditionnait le mental physique, ne s'accroche plus à cette inertie tamasique qui répète indéfiniment le même mouvement ignorant. Il devient le chant et l'instrument passif et d'une lumière plus grande. Il répond à chaque demande de la force spirituelle, donne son support à toute la variété, à toutes les intensités de l'expérience divine nouvelle. Les premières parties vitales et dynamiques de notre nature, notre être nerveux et émotif, sensoriel, volitif, élargissent leur pouvoir et sont capables d'une action infatigable et d'une jouissance béatifique au milieu même de l'expérience. Mais ils apprennent en même temps à ne jamais quitter le fonctionnement d'un vaste calme maître de soi et posé en soi, sublime dans la force et divin dans le repos, non exultant dans la joie, ni agité, ni torturé par le chagrin et la douleur, ni harcelé par le désir et les impulsions importunes, ni engourdi par l'incapacité et l'indolence. L'intelligence le mental pensant, la compréhension et la réflexion renoncent à leurs limitations sadhviques et s'ouvrent à une lumière et à une paix essentielles. Une connaissance infinie nous offre ses étendues splendides. Une connaissance qui n'est pas faite de construction mentale, pas liée aux opinions et aux idées, pas dépendante d'une logique trébuchante et incertaine, ni du soutien précaire des sens, mais spontanément sûre, authentique, qui pénètre tout et comprend tout. Une béatitude et une paix sans limite qui ne dépendent pas d'un abandon des difficultés de l'énergie créatrice et des entraves des activités dynamiques qui ne s'enferment pas dans quelques félicités limitées mais existe en soi et inclut tout, qui se déverse en des domaines toujours plus vastes et par des voies toujours plus larges et plus nombreuses pour posséder notre nature. Une force, une béatitude et une connaissance plus haute viennent d'une source supérieure au mental, à la vie et au corps, et s'en saisissent de cette nature entière pour la remodeler à l'image plus divine. Voilà. Les trois modes de la nature, du premier de la synthèse des yogas, le yoga des œuvres de Sri Aurobindo. Alors aujourd'hui, Ganga Lakshmi est arrivée le 14 février 1981 à Auroville. Qu'elle n'a jamais quitté. Elle n'a jamais quitté l'Inde. 37 ans à Auroville, 37 ans en Inde et 37 ans dans le monde. Merci intégralement à Sri Aurobindo et à Douce Mère pour ce cadeau essentiel qu'elle a mis dans son cœur. Merci Mère. Merci, Sri Aurobindo.